Lionel Sauté, du Jardin des Funambules à Millars.
Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de permaculture et milieu urbain. Bill Mollison et David Holmgren écrivaient déjà en 1978 dans le livre Permaculture 1, livre traduit en français en 1986 et disponible aujourd'hui aux éditions Charles Corlay. Toutes les cités ont des terrains libres non utilisés. Les bords des voies, les coins de rue, les pelouses, les terrains devant et derrière les maisons, les vérandas, les toits en béton, les balcons, les murs de verre et les fenêtres faisant face au sud. Certes, beaucoup de banlieues sont plantées, mais on dirait à ce que l'on voit que l'on a choisi délibérément des plantes sans utilité pour l'homme. C'est comme si un arbre, un buisson, une plante grimpante, une herbe présentant quelque utilité pour l'homme était chose honteuse. Et comme si c'était un signe de promotion sociale que de faire seulement pousser des plantes inutilisables. Le style ostentatoire des nouveaux riches. Or, les villes pourraient, à peu de frais, subvenir à une grande partie de leurs besoins alimentaires et pour ce faire, utiliser une grande quantité de leurs propres déchets comme mulch et compost. Mais peut-être le résultat le plus précieux que pourrait obtenir une cité à donner à la permaculture serait-il la paix de l'esprit. Une paranoïa se répand partout dans les cités et elle est le produit du manque d'initiative devant les difficultés présentes et les incertitudes du lendemain. En développant des permacultures privées et publiques, les gens pourraient voir des ressources alimentaires nouvelles s'ajouter aux protections que la cité surproduit et s'adonner eux-mêmes à des tâches ayant un sens en contribuant à leur propre survie et à celle des autres. Si on fait un petit arrêt sur quelques chiffres, on constate que la ville, c'est 220 millions d'habitants urbains en 1900 contre 2,2 milliards en 2007. En 1950, deux agglomérations seulement sur la planète comptaient plus de 10 millions d'habitants contre 20 en 2005. En France, on estime à 82 000 hectares de terres agricoles perdues chaque année dues à l'étalement urbain. Aujourd'hui, les villes sont extrêmement consommatrices de ressources et très peu productives. Alors au niveau alimentaire, de nombreux projets sont dans les tuyaux. On entend de plus en plus parler de fermes urbaines, de fermes verticales, recyclage de certains déchets, pompes à CO2, économie d'eau et de transport, moyens de fournir à la population des cultures locales, cueillies à maturité, consommées fraîches, solutions aux problèmes de manque de terres cultivables, création d'emplois. Bref, la solution. On pourrait aussi se dire que ces projets ne remettent pas en cause la mauvaise répartition des richesses, la propension à miser sur la technologie et la maîtrise du vivant, parce que nul doute que de nombreux végétaux cultivés dans ces fermes urbaines sera le fruit des recherches sur les OGM, en plus de pousser hors sol et sans voir le soleil sous des lumières LED. Au final, quelle énergie vitale auront ces végétaux ? De plus, seule une poignée de spécialistes seront capables de faire fonctionner ces fermes hautement énergivores, ne renforçant en rien l'autonomie des populations. Or, comme l'a écrit le paysan-écrivain Émile Guillaumin en 1949, la forme sociale et le régime agricole de l'avenir devront, quoi qu'il arrive, avoir pour base l'autonomie des ménages. L'autonomie des ménages, nous y voilà. De très nombreuses initiatives fleurissent aux quatre coins du monde autour de l'autonomie en milieu urbain et en particulier dans le domaine alimentaire. Les AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, mettent en relation directe producteurs, consommateurs. Les jardins partagés refont surface en ville et doivent faire face à une demande croissante. À Montréal, la ferme Loufa ou à New York, la Brooklyn Grange Farm produit 22 tonnes de légumes par an. Le mouvement des incroyables comestibles se répand dans le monde à une vitesse incroyable. Ce mouvement, qui est né en 2008 de Tom Morden, une petite cité industrielle en déclin du nord de l'Angleterre. Les habitants se sont reconnectés entre eux et avec la terre et cultivent ensemble des parcelles dont les produits sont à partager gratuitement pour qui veut. Transformation des relations sociales, moment de célébration collective, dynamique inclusive où chacun peut exercer librement ses talents et ses compétences sur la base du partage, de l'entraide et de la coopération. Une autre façon de vivre la ville. Et ce mouvement est né de l'initiative de Pam et Mary qui ont commencé par planter une rhubarbe au pied d'un abribus parce qu'elles voulaient vivre autre chose. Comme l'a écrit Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Aujourd'hui, Tom Morden a atteint 83% d'autonomie alimentaire. Autres exemples, à Ottawa, au Canada, une initiative appelée Eden Harvest, récolte cachée, qui permet à des propriétaires d'arbres fruitiers de s'inscrire sur le site internet du mouvement et de leur confier la récolte, qui est ensuite partagée entre les récoltants, le propriétaire et la banque alimentaire. Ou encore à Seattle, où un projet de conception permaculturelle voit le jour, la Beacon Food Forest, une forêt comestible de 3 hectares à seulement 3 km du centre-ville, où l'objectif est de produire du bois et de la nourriture pour les habitants et les visiteurs. Plus proche de nous, à Albi, un projet de ville comestible est en préparation, en remplaçant des parterres floraux en zone de culture comestible. Chez nous, il est possible, où qu'on habite, de faire un pas vers l'autonomie alimentaire en cultivant chez soi. De nombreux exemples démontrent qu'un balcon ou une petite terrasse peuvent être extrêmement productifs en considérant le volume et non l'espace de votre terrasse. Sur un petit arbre fruitier peut s'enrouler une muroise. Contre un mur peuvent s'épanouir kiwis et vignes. Vous pouvez cultiver vos propres champignons et pour ça, même pas besoin de balcon. Aujourd'hui, les livres pratiques sur la permaculture fleurissent dans les librairies, et notamment La permaculture dans un petit jardin de Kurt Foster aux éditions Ulmer, qui vous guidera si vous avez besoin d'idées pour aménager un petit espace. Pour terminer cette chronique, je voudrais vous parler de la recherche qu'a menée François Schuiten, auteur de bande dessinée. En 2010, est sorti son livre La cité végétale aux éditions Mardaga, dans lequel il suggère des solutions pour les transports urbains publics et individuels et propose des formes d'habitat archiborescents et étudie le devenir de la ville de Lyon à l'horizon 2100. Dans ce livre, il nous parle notamment de biomimétisme. Imaginez un arbre. Un de ces arbres géants comme ceux qui poussent dans les forêts équatoriales. Voyez sa taille imposante, sa beauté, sentez sa présence, l'odeur d'humus à ses pieds. Appuyez-vous contre son tronc à la fois si solide et toujours vivant. Les arbres ont de tout temps fasciné les hommes. Mais si vous le regardez maintenant avec les yeux d'un architecte ou d'un ingénieur, cette fascination devient totale. Car il devient alors une véritable inspiration pour les bâtiments et habitations d'après-demain. 60 mètres de hauteur, 3 mètres de racines, fondations, alors qu'il est bâti les pieds dans un sol meuble et très humide, 3 mètres de pluie par an. Des racines qui fusionnent avec celles des voisins. En hauteur, les 20 mètres supérieurs, qui sont munis d'une surface souple, découpée, bien fixée, de 15 hectares de feuilles panneaux solaires multifonctionnels, assurant en même temps l'approvisionnement en énergie, la régulation de l'eau sortante et la lutte chimique contre les agents biologiques délétères, les herbivores donc. Des panneaux solaires biodégradables et qui se régénèrent au fur et à mesure de la disparition. Mais ce n'est pas tout. Cet arbre-édifice a aussi la particularité de s'auto-construire, sans grue ni bétonnière, en prélevant ses matériaux gratuits sur place et de façon invisible. Il est en outre fort accueillant, avec une majorité d'organismes, et en nourrit d'autres, s'il n'exagère pas. Il est entièrement recyclable en fin de vie, et pour couronner le tout, il se reproduit tout seul, par l'intermédiaire de graines, reprenant tous ses plans et secrets de fabrication. Un modèle vertigineux, de quoi rendre sérieusement jaloux ou émerveiller nos architectes les plus audacieux, de quoi faire pressentir la puissance du biomimétisme et des organismes qui l'inspirent. Le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour innover. Le biomimétisme a cette première définition large qui ne comprend pas la durabilité, contrairement à celle qui nous intéresse ici. Ça part d'une idée tout simple, qui est que par définition, les espèces qui nous entourent sont durables, sinon elles ne seraient plus là. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus durables que nous, puisque la plupart ont un âge bien plus respectable que l'Homo sapiens sapiens. Et par définition aussi, on peut dire que cela fait depuis l'apparition de la vie sur Terre que toutes ces espèces travaillent ensemble à garder un système, ou plus précisément des écosystèmes qui durent, qui changent, qui évoluent, mais qui durent. Et ce qui tombe bien, sur la même planète que nous. Inspirant, non ? À très bientôt.